Chapitre 21. Les araignées violonistes possèdent 6 yeux. Leurs pattes s'étendent dans toutes les directions. Elles tissent une toile de soie gluante dans laquelle elles prennent les insectes. Tirée de Spiders and Their Kin, Herbert W. et Lorna R. Levy, St. Martin's Press, 2002. Henrietta n'allait pas fort. La veille au soir, il avait écrasé un criquet entre le pouce et l'index pour mettre au jour ses organes internes, avant de le poser dans l'obscurité sécurisante de l'unité de soins intensifs, près des crochets d'Henrietta. Il avait jeté un œil au seau du lit. L'insecte broyé restait bien en vue. Henrietta elle-même avait reculé de quelques centimètres, manœuvre laborieuse avec ses pattes meurtries. Il se rappela que les vieilles mygales jeûnent souvent pendant des semaines après la mue. Un jour, il avait entendu parler d'un spécimen qui, après avoir passé une année entière sans se nourrir, s'était pourtant remise. La dénutrition n'était pas un danger. Mais la déshydratation, oui. Il allait l'aider. Ils avaient fait tout ce chemin ensemble, il l'accompagnerait jusqu'au bout. Il n'alluma pas la lumière. Au contraire, il évoluait dans la grande salle de bain sombre avec l'aisance d'un homme accoutumé à l'obscurité. Il avait déjà monté une soucoupe de la cuisine, stérilisée dans de l'eau bouillante. Il la remplit de quelques gouttes d'eau, puis cala un bord sur deux bouts de coton, de manière à l'incliner suffisamment pour que l'eau forme une petite flaque à l'autre extrémité. Parfait. Maintenant le plus délicat. Contrairement à ce que croient les gens, les araignées sont excessivement fragiles. Même les mygales les plus impressionnantes ne sont en réalité que des créatures relativement petites et myopes qui se déplacent à une vitesse limitée. On les écrase aisément pour peu qu'on les manipule mal. Sans parler des dangers inhérents à la mue, aux pesticides, aux parasites et aux guêpes mangeuses d'araignées. Pas étonnant qu'elles préfèrent vivre en solitaire dans des coins sombres. Mais Henrietta ne pouvait plus se cacher. Elle avait besoin d'eau. Il passa la main dans le pot et entoura le corps d'Henrietta comme s'il s'agissait d'un œuf, en prenant soin de ne pas trop la serrer afin d'éviter à sa propre peau le désagrément des poils urticants. Ses doigts recouvrirent les pattes d'un côté, tandis que son pouce recouvrait celle de l'autre côté et que son index entourait les crocs. D'un mouvement souple, il retourna sa main, Henrietta délicatement nichée à l'intérieur. Il la renversa au-dessus de la soucoupe d'eau qu'il avait préparée et la posa, avec les crocs dans l'eau, le reste du corps en amont. Il la lâcha, en l'observant de près pour s'assurer qu'elle ne glissait pas dans la petite flaque où elle se noierait. Après quelques instants, comme elle restait bien en place, il rebascula sur ses talons avec un hochement de tête satisfait et consulta sa montre. 3 quarts d'heure devraient suffire. Après quoi, il la remettrait dans l'unité de soins avec un criquet fraîchement éventré. Avec un peu de chance, ça ferait l'affaire. Maintenant, il fallait qu'il s'occupe d'autres petites protégées. La chambre était spacieuse. D'immenses baies sur deux côtés, un plafond voûté plein de charme. À l'époque, ce devait être le joyau ensoleillé de la luxueuse résidence d'été. Une galerie couverte qui courait sur deux flancs de la maison. Un grand salon orné de vitraux. 3 cheminées, 6 chambres, un jardin d'hiver. Le temps avait décoloré le papier peint à fleurs, tout comme les années sans entretien, avaient entraîné peintures écaillées, planches cassées, fondation affaissée. Au rez-de-chaussée, certaines fenêtres ne fermaient plus, des portes n'ouvraient plus, la maison tout entière penchait vers la droite, ce qui lui donnait l'air de guingois. Et pourtant, elle était parfaite, pleine de recoins, d'escaliers tortueux, de vieux placards, de poutres apparentes. Lorsqu'il l'avait vue pour la première fois, cette propriété à l'abandon, tout le plafond de la grande chambre n'était qu'un enchevêtrement de toiles d'araignées. Au cours de la visite, non pas une, mais deux araignées étaient tombées des chevrons sur l'épaule de l'agent immobilière effarouché. Les deux fois, elle avait poussé un hurlement, et il avait su dans la seconde qu'il allait prendre la maison. Il avait réparti sa collection dans les chambres de l'étage. Les mégales dans la grande chambre, les violonistes dans la chambre d'enfants attenante, les Pteridae au bout du couloir. Elle vivait dans des terrariums ou sur des cadres pour toiles d'araignées, nettoyées une fois par mois et rechargées en eau en quantité suffisante. Les stores des chambres tenaient le soleil en respect. Les humidificateurs entretenaient dans les lieux le degré d'hygrométrie adéquat. Dans certaines des chambres, il avait apporté de l'humus pour en recouvrir le plancher. Du bon vieux terreau, plein de feuilles, de débris et de vers de terre. Cette couche contribuait à isoler les parquets pleins de courants d'air et exhalait un relent de mort et de décomposition. L'atmosphère idéale pour les arachnides. Lui-même détestait la terre, son odeur, cette sensation quand elle coulait entre ses doigts, s'infiltrait entre ses orteils. Il aurait pu dire qu'il en avait peur, mais c'était un sentiment qu'il ne s'autorisait pas à éprouver. Au contraire, il s'entourait de cette matière même, dont l'odeur lui soulevait parfois le cœur et le renvoyait à ses pires pensées. Il respectait ses araignées. Il les étudiait, s'en occupait, se servait d'elles pour retrouver l'araignée qui était en lui. En contrepartie, sa collection lui offrait un refuge. Un endroit où venir broyer du noir dans les mauvais jours, lorsque chacun sentait qu'il fallait éviter son regard. Il s'allongeait sur le plancher couvert de terre et se remémorait toutes ces choses qu'il voulait oublier, jusqu'à ce que sa rage remonte en bouillonnant à la surface. Alors il ôtait ses vêtements, ouvrait le couvercle des terrariums et regardait les colonies d'araignées violonistes s'en déverser. Il les mettait au défi de déchaîner leurs pires instincts. Il les suppliait. Mais les araignées restaient des créatures foncièrement timides. Certaines violonistes se promenaient sur ses pieds, grimpaient sur ses jambes poilues, auscultaient les veines de son bras. Mais la plupart disparaissaient dans les fissures de la vieille maison, jusqu'à ce qu'il soit obligé de disposer des feuilles adhésives pour les capturer. Les feuilles adhésives les tuaient, naturellement, parce que c'était ce qu'il faisait de mieux, détruire même ce qu'il aimait. Il commença par les mégales, passant méthodiquement d'un récipient rectangulaire vitré au suivant. Elles étaient alignées avec soin sur les étagères métalliques le long des murs et chaque terrarium portait une étiquette indiquant le nom de l'espèce et une fiche où il notait la nourriture prise chaque jour. Une nouvelle captive pouvait manger une douzaine de criquets par semaine, alors que la moyenne était de 6 à 8 criquets par mois. Avant et après la mue, certaines mégales ne mangeaient rien du tout. Se posait également le problème de la variété. Certaines mégales ne mangeaient que des criquets et des vers de farine. Mais les espèces de taille plus importante préféraient les souriceaux et les jeunes rats, morts, mais à température ambiante. Il les achetait congelés et les passait sous l'eau chaude du robinet. Il avait appris à ses dépens à ne jamais réchauffer une souris morte au micro-ondes. Il lui avait fallu des siècles pour débarrasser la cuisine de cette odeur. Dans les premiers temps, il attrapait des insectes dans le jardin. Sauterelles, cigales, cafards, papillons de nuit, chenilles, vers de terre. Mais les insectes pris dans la nature n'étaient pas une alimentation sans danger. Potentiellement contaminés par les pesticides, ils risquaient d'empoisonner malencontreusement ses protégés. Désormais, il achetait l'essentiel de la nourriture dans des animaleries en ligne, en diversifiant ses sources d'approvisionnement pour ne pas attirer l'attention. Sa collection comptait à présent plus de 120 spécimens, sans compter les violonistes au délicat corps brun qui devaient être près d'un millier. Il avait des araignées capturées dans le jardin, des araignées achetées à l'étranger, des araignées qu'il avait élevées lui-même, et évidemment, une pouponnière pleine de jeunes. Et comme tout passionné qui se respecte, il continuait à enrichir sa collection. Il en était au dernier terrarium. Même dans la pénombre, il sentait les yeux qui l'épiaient, féroces, calculateurs, avides. Cela le fit sourire. Theraphosa blandi, la plus grosse araignée du monde, avec une envergure de près de 30 cm. Il avait fait venir ce mâle d'Amérique du Sud la semaine précédente. À son arrivée, la mygale s'était dressée sur ses pattes arrière en émettant une stridulation audible de l'autre bout de la pièce. Avec ses énormes crochets et son corps recouvert de poils urticants, c'était une machine de guerre fine et cruelle, connue pour s'attaquer à tout, depuis les rongeurs jusqu'aux petits oiseaux. La plupart des mygales sont de bons géants. La T. blandi, en revanche, est célèbre pour son agressivité, et sa morsure peut coûter un doigt, sinon une main, aux collectionneurs non avertis. Il sentait l'araignée qu'il observait tard le soir. Il l'avait observée à son tour pendant qu'elle explorait son nouvel habitat, tapotant délicatement la vitre, comme à la recherche d'éventuelles failles. Il avait l'impression d'une intelligence débridée, en ébullition. La mygale analysait, guettait, conspirait. Si l'homme laissait une ouverture, elle frapperait. Il se pencha, examina l'araignée, brune, marbrée, tapie dans un coin au fond de sa cage. Hé, dit-il, ça te dirait une souris ? Il lui fit miroiter le cadavre d'une souris blanche, attendant de voir sa réaction. Quelques pattes se levèrent, explorèrent l'espace devant elle. Voilà ce qui va se passer. Si tu es sage, tu auras ton petit déjeuner. Si tu attaques, tu crèveras de faim. Compris ? Il attendit encore une fraction de seconde. Comme la mygale ne se jetait pas contre la paroi et ne se cabrait pas non plus en signe d'hostilité, l'homme se redressa et, posant la main sur le couvercle grillagé et lesté, se prépara. 1, 2, 3. Il souleva le couvercle d'un coup sec, laissa tomber la souris et regarda 30 cm de mygale jaillir du coin et attraper la dépouille en plein vol. Et l'araignée atterrir avec un bruit mat, le corps sombre enserrant déjà farouchement son nouveau trésor. Puis la mygale leva la tête, les crochets bien en vue. L'homme laissa retomber le couvercle plus précipitamment qu'il n'en avait eu l'intention et recula. Il se reprit, apaisa les battements de son cœur, considéra la T. blandi avec un respect renouvelé. Il tapota la vitre de son doigt replié. « Bienvenue dans la collection, » dit-il. Après quoi, avec la sensation d'avoir eu le dernier mot, il descendit au rez-de-chaussée d'un pas léger. Le gamin était dans ses jours à jouer à des jeux vidéo. Il avait toujours une télécommande à la main, les yeux vitreux, l'air maussade, l'adolescence. L'homme l'observa depuis le pas de la porte en pleine réflexion. Le temps était compté à présent. Une semaine, peut-être davantage. Il fut surpris de ressentir une bouffée de nostalgie, comme un maître pour son élève. Un père pour son fils. Il entra dans la pièce, éteignit la télé. Le garçon ouvrit la bouche pour protester, mais se ravisa. Il se ramassa sur lui-même, attendit. « Tu ne sais pas dire bonjour ?» demanda l'homme debout à côté du canapé. « Bonjour. Merde, ça ne te ferait pas de mal d'être un peu poli? Qu'est-ce que je t'ai appris ?» Le gamin releva la tête, les yeux enflammés, boudeur. « J'ai dit bonjour. »« Ouais, mais nous savons tous les deux que tu ne le pensais pas. » L'homme recula, perdu dans ses pensées. « Tu as eu de ses nouvelles ?» demanda-t-il tout à coup. « Pas encore, » répondit le gamin en détournant le regard. « Tu crois qu'elle va le faire ?» Haussement d'épaule. « Pas faux, » convint l'homme. « On ne gagne jamais rien à faire confiance à une femme. »« Alors, petit, la pression monte ?»« C'est ton examen de passage, tout de même. Ça n'arrive pas tous les jours. » Le gamin haussa à nouveau les épaules. L'homme ne fut pas dupe. Il eut un grand sourire, mais chez lui, ce n'était pas beau à voir. « Dis-moi la vérité, fiston. Tu crois qu'elle t'aime, hein ? Digne et toi, de vrais petits tourtereaux. Vous allez vous marier ? Élever le bébé ? Habiter une maison avec une clôture de piquet blanc ? Faire comme si rien de tout ça ne s'était passé ? » demanda-t-il avec un large geste de la main. Le gamin ne répondit rien. Je vais te dire, fiston, je vais te dire exactement ce qui va se passer. Tu vas réussir ton examen de passage. Je vais t'offrir un gros paquet de fric et t'auras envie de me le balancer en travers de la gueule. Mais tu ravaleras ta fierté. Tu prendras mon fric. En te disant que tu me le rendras plus tard. Quand quoi ? Quand tu gagneras ta vie en faisant la pute, le mac ou le dealer ? Parce qu'il faut que tu saches, les gens qui s'arrêtent à l'école élémentaire ne vont pas franchement à l'université. Et ils n'ont pas non plus de diplôme d'électricien ou de garagiste. Mais ça, tu ne l'as pas encore pigé. Tu te figures que tu seras libre d'ici quelques jours et que tout sera forcément mieux qu'ici. Tu parles. Je te donne 2 mois maximum. Ensuite, tu seras à la rue. Tu feras des pipes pour 5 $ à des vieux dégueulasses. Ou bien tu t'injecteras tout ce qui te tombera sous la main. Et tu commenceras à te poser des questions. Est-ce que c'était vraiment si mal que ça, ici ? Une bonne vieille baraque, la nourriture gratos, les jeux vidéo, la télé par câble. Je t'ai bien traité, petit. Tu t'en apercevras toujours assez tôt. Je t'ai bien traité. L'homme se dirigea vers la cuisine. C'était l'heure du petit déjeuner, après quoi il fallait qu'il pose son cul devant l'ordinateur. Les réserves de liquide baissaient, il fallait bosser un peu. Mais au dernier moment, le garçon posa une question. « Combien ? » demanda-t-il depuis le canapé en s'éclaircissant la voix. « Combien d'argent ? » ?»« Mais pourquoi, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Faut d'abord que tu passes ton examen. »« Je veux savoir. » Il avait à nouveau cette expression. Des yeux sans éclat, scrutateurs. Comme la Tiblandie à l'étage. Le gamin grandissait. Il faisait aussi quelques centimètres de plus que l'homme maintenant. Et ils le savaient tous les deux. Je veux savoir combien vaut ma vie exactement. L'homme considéra la question. Il fit demi-tour, revint vers le canapé et eut la satisfaction de voir le garçon se raidir, comme s'il se préparait à prendre un coup. Mais l'homme ne frappa pas. Au lieu de ça, il se pencha et dit ces mots presque avec tendresse, les soufflant à l'oreille du garçon. « Tu ne vaux pas le préservatif usagé dont tes parents se sont servis le jour où ils t'ont conçu, petit merdeux. Mais je vais avoir pitié de toi. Je vais te filer 100 $, 10 par année de service. Dis merci. » Le garçon le regarda. « Je veux 10 000. Chérie, tu n'étais pas un si bon coup. « Je veux 10 000, » insista le garçon, et la vacuité même de son regard effraya un peu l'homme et lui hérissa les poils de la nuque, bien qu'il eût soin de ne pas le montrer. Il regarda le garçon pensif. « 10 briques, sérieux. Je les mérite. » L'homme éclata brusquement de rire, passant la main dans les cheveux du garçon. « Tu veux de l'argent de poche, fiston ? Alors tu ferais mieux de le gagner. » « Que je te parle de cette nouvelle araignée que j'ai là-haut.